Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. En 1944, un groupe d'étudiants juifs issus de la Résistance crée l'Union des étudiants juifs de France. La première vocation de l'UEJF est sociale, aider les jeunes juifs après la guerre à se réintégrer dans la société française, en les aidant notamment à recouvrer leurs droits d'étudiants. Alors comment l'UEJF s'inscrit-elle, 70 années plus tard, dans la ligne de cet héritage, dans un contexte social et politique qui n'a plus rien à voir avec celui de la France de l'après-guerre? Quels sont aujourd'hui ses projets et ses missions, notamment les projets et les missions auxquels la FMS apporte son aide? La question de la lutte contre l'antisémitisme est ici centrale. Quels sont les programmes et les moyens d'intervention concrets de l'UEJF dans le cadre de cette lutte, qui englobe aussi un travail contre le négationnisme et pour le maintien d'une mémoire vive de la Shoah? Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sacha Gosselin, l'actuel président de l'UEJF, et de Yonatan Arfi, vice-président du CRIF, qui fut président de l'UEJF entre 2003 et 2005, ce qui est une manière, tous les trois, de faire le point sur une période de près de 15 ans, qui, de la présidence de l'un à celle de l'autre, a vu la situation se modifier considérablement. Alors bonjour Sacha Gosselin.
Bonjour.
Alors peut-être on pourrait partir d'une lettre ouverte que vous venez d'écrire au président de la République dans l'Express, c'était le 21 février dernier, hein, il y a quelques jours donc, et dans laquelle vous lui demandez de faire de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause de son quinquennat. Alors dans ce texte, vous témoignez de l'aggravation de la situation. Est-ce que vous pouvez tout simplement revenir sur les signes et les causes, selon vous, de cette aggravation ?
Oui, il y a plusieurs choses qui sont inquiétantes. Déjà, un contexte global avec, bien qu'il y ait une baisse des actes antisémites en France et des actes racistes, il y a une augmentation des actes violents. Et l'antisémitisme du quotidien qui est ressenti par de nombreux Français juifs se traduit par un sentiment d'insécurité assez important. Et puis au-delà de ça, il y a dans le débat public un certain nombre de choses qui sont... assez consternante. Les débats auxquels on a assisté ces dernières semaines autour de la réédition des écrits antisémites de Louis-Ferdinand Céline, les commémorations de Jacques Chardon et de Charles Maurras au recueil officiel, indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a une déconnexion entre les paroles de ce gouvernement qui veut lutter contre l'antisémitisme et les actes qui parfois semblent déconnectés lorsque le Premier ministre prend fait et cause pour une réédition des écrits de Céline.
Et donc vous, pour vous, ça c'est vraiment le symptôme d'un climat qui a changé ces dernières années. Alors peut-être on peut voir avec Yonatan justement, Arfi, qui était là il y a 15 ans, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic en fait, que quelque chose, un air du temps s'est vicié davantage au cours des dernières années?
Et il y a quelque chose qui est frappant d'abord, c'est de voir à quel point la réalité d'aujourd'hui est somme toute pire que la manière dont nous la craignions il y a 15 ans. Il y a 15 ans, l'antisémitisme, c'était des graffitis, des insultes, des agressions de personnes, malheureusement ça commençait, mais somme toute c'est quelque chose qui ressemblait, j'allais dire, à de la petite délinquance teintée d'un fond d'antisémitisme, avec effectivement le marqueur juif qui était très fort, lié à l'époque au contexte de la seconde intifada, mais enfin... quelque chose qui, dans les formes, ressemblait à de la petite délinquance. 15 ans après, on voit que cet antisémitisme a perduré dans sa permanence. Enfin, il y a un fil continu qui nous relie à la situation d'aujourd'hui, et en même temps, il a changé de nature. Aujourd'hui, il y a certes cet antisémitisme du quotidien que l'on décrit, cet air du temps un peu lourd qui pèse autour du signifiant juif, du signifiant Israël, un peu partout, et en même temps, le passage à l'acte terroriste qui a marqué une rupture, un point de rupture dans l'antisémitisme récent en France, que ce soit donc évidemment Toulouse ou l'hypercachère, mais également à leur manière Sarah Halimi et Ilan Halimi également. Et donc ça, c'est venu changer radicalement un point qui est notre capacité de projection dans la société française. Il y a 15 ans, malgré l'antisémitisme, on ne doutait pas de notre projection dans la société française. La question de l'avenir de Juifs de France n'était pas formulée dans ces termes. Aujourd'hui, parce que 15 ans, au fond, ça correspond à une bonne demi-génération, eh bien, on voit une question sous-jacente se poser pour des générations entières de Juifs de France sur leur avenir.
Alors, les deux exemples qu'a donné Sacha Gosselin il y a quelques minutes, quand il parlait de la situation actuelle, et c'est effectivement les exemples qu'il donne dans cette lettre, hein, c'est la commémoration qui avait été inscrite de Charles Maurras au recueil officiel, qui a été retirée, et ensuite la réédition par Gallimard, le projet de réédition
par Gallimard des pamphlets de Céline. Là, on sort de la rue, on n'est pas dans la rue. Hein. C'est des exemples que vous donnez, c'est pas les quartiers, c'est autre chose dont il s'agit là que vous pointez, il me semble.
Le problème, c'est que si on veut combattre cet antisémitisme auquel on est confronté au quotidien aujourd'hui, cet antisémitisme qui se répand sur les réseaux sociaux, celui d'Alain Soral, de Dieudonné, celui qui a causé la mort de Sarah Halimi, d'Ilan Halimi, et qui a provoqué les attentats à Toulouse et à l'Hypercacher, il faut aussi pouvoir être en mesure de ne pas commémorer l'antisémitisme du XXe siècle et de ne pas lui donner une tribune qu'il ne mérite pas. Parce que lorsqu'on commémore Maurras ou lorsqu'on vient rééditer les textes de Céline en expliquant qu'il s'agit d'écrits polémiques, on banalise l'antisémitisme. Et de ce fait, l'antisémitisme du quotidien, celui qu'on vit aujourd'hui, celui qu'on ressent, il est banalisé et c'est là le danger. C'est lorsqu'il y a, pas un double discours de la part du gouvernement, mais en tout cas, un manque de clarté sur cette problématique-là.
Est-ce que vous diriez, je m'adresse aussi bien à l'un qu'à l'autre, que la lutte contre l'antisémitisme est devenue depuis 15 ans, pour un syndicat comme l'UEJF, vraiment sa lutte centrale, enfin le point central de sa mission, de sa vocation. Alors, et comment à ce moment-là ça s'intègre à ses vocations traditionnelles, celles d'un syndicat étudiant, somme toute comme les autres, hein. Comment vous voyez cette dialectique entre la lutte contre l'antisémitisme, ce qui est lié au fait que vous êtes une union d'étudiants juifs, et un syndicat d'étudiants?
Alors, ce dont moi je peux témoigner, c'était les réflexions qui nous animaient, j'allais dire, au début de la seconde intifada, puisque à nos missions traditionnelles de syndicats étudiants juifs de l'époque s'ajoutait la problématique, j'allais dire, radicale de l'antisémitisme. Et la vraie difficulté politique à laquelle on se confrontait, c'était de dire comment on se débrouille pour que cette question de l'antisémitisme ne vampirise pas effectivement l'ensemble de la vocation d'institution. Une formule que...
Sous-entendu que vous avez le sentiment que ça a été le cas?
C'est le risque premier, en fait, c'est la grande victoire des antisémites à partir du moment où du fait de l'antisémitisme, on consacre l'essentiel de nos ressources en temps, en moyens financiers, à la lutte contre l'antisémitisme, on en perd une partie de notre identité, et donc, quelque part, on réalise le projet des antisémites, si j'ose dire. Donc, le vrai défi pour le monde juif institutionnel, c'est de garder le cap de sa mission première, et d'une certaine manière, par exemple, le monde ultra-orthodoxe, dont je ne fais pas partie à titre personnel, je lui suis souvent reconnaissant, ou en tout cas admiratif, de cette capacité à poursuivre son projet juif, indépendamment du développement ou non de l'antisémitisme à ses portes. Et donc, alors évidemment, l'UEJF, et c'est le cas pour l'ensemble des institutions juives, et aujourd'hui aussi le CRIF, sont des institutions qui ont une vocation politique, donc la question se pose forcément dans des termes différents, mais il y avait cette volonté, de par des actions propres, de poursuivre des actions qui permettent le déploiement identitaire des Juifs de France d'une manière positive, parce que c'est aussi une manière de répondre à l'antisémitisme que de le faire.
Alors, vous dites action propre, vous dites vocation politique. Sacha Cosford, dans votre tribune, vous demandez à Emmanuel Macron de faire de la lutte contre l'antisémitisme une des causes de son quinquennat. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez lui préconiser, justement? Parce que j'imagine que cette injonction, elle est articulée aussi à une vision politique que vous avez. Ça veut dire quoi d'avoir une vocation politique pour une institution comme la vôtre? Et qu'est-ce que concrètement vous pouvez suggérer?
Ça signifie que le président de la République va mobiliser les différentes institutions, les différentes autorités de l'État autour de ce combat-là, en prenant acte du fait que le combat contre l'antisémitisme est un combat pour la République et qu'à ce titre, tous les moyens de l'État méritent d'être mobilisés. Ça signifie mobiliser des moyens à l'école, renforcer les valeurs républicaines, travailler sur les questions de respect, sur les questions de compréhension de la laïcité à l'école, ne plus tolérer des incivilités. Ça signifie aussi s'opposer aux réseaux sociaux, et le président Macron a montré qu'il était capable de s'opposer à des grandes puissances lorsqu'il a reçu Donald Trump ou Vladimir Poutine à Paris ou à Versailles. Il a montré qu'il était capable de s'opposer à des visions politiques qui lui semblaient dangereuses. Et en l'occurrence, avec les réseaux sociaux qui ont des moyens considérables, bien plus importants que certains États, il devrait être en mesure de s'opposer, et pas seulement sur des questions de fiscalité ou des questions économiques, mais sur des questions de valeurs, et de dire que la France n'est pas juste un marché à conquérir, et qu'il y a des textes de loi qui s'appliquent en France et que ces textes de loi doivent être appliqués par Google, Facebook, Twitter. Ça signifie aussi que il y a que l'État prend en charge davantage la formation des magistrats, la formation des policiers sur les crimes ou les actes à caractère raciste et antisémite. Ça signifie en un mot que l'État est pleinement mobilisé et qu'il fait de ce sujet un sujet prioritaire parce qu'il considère que c'est un sujet de société. Or, le problème actuellement, c'est que jusqu'à présent, ce gouvernement ne s'est pas encore confronté à des sujets sociétaux, mais davantage à des sujets socio-économiques. Et il est nécessaire aujourd'hui d'attaquer ces sujets-là, sur les questions de laïcité, sur les questions de racisme et d'antisémitisme. Le gouvernement ne peut pas faire l'impasse de ces sujets, il ne peut pas laisser le débat public sans y prendre part.
En attendant, Sacha, moi je suis frappé par une chose, c'est... ça suscite chez moi une forme d'admiration pour Sacha, pour les générations actuelles d'étudiants qui se confrontent au fond des questions qui ont acquis depuis 15 ans une forme de complexité beaucoup plus grande que celle qu'il y avait à l'époque. Je veux dire, nous pensions en 2000, 2002, 2003, 2005, avec une forme de naïveté que l'antisémitisme, au fond, pouvait être résolu en quelques années et que la mobilisation qui était la nôtre était quelque chose, j'allais dire, de court terme, qui pouvait produire du résultat à portée de bras, de main. Et aujourd'hui, les générations d'étudiants juifs qui s'engagent...
Vous feriez une sorte d'une gueule de bois, en fait, sur cette question.
Mais ce qui a traversé la communauté juive pour partie, c'est une forme de sentiment d'impuissance, à un moment donné, qui a gagné... de démotivation, du coup, qui a gagné une partie des rangs militants, et on a vu s'affaiblir la vie militante juive un peu partout, dans les différentes institutions. Et donc je suis d'autant plus admiratif et respectueux de ceux qui poursuivent cette lignée d'engagement, qu'ils le font en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant qu'ils ne verront pas l'effet immédiat de leurs actions, et que donc, c'est une action vraiment désintéressée, si j'ose dire, au sens le plus noble du terme, parce que très certainement que ce qu'ils font aujourd'hui ne produira des effets que dans un temps plus long que ce qui est celui de leur engagement à l'UEJF. À l'époque, on avait nous le sentiment, on n'avait pas cette conscience-là, on était embarqués par la succession des événements la temporalité de l'époque très immédiate, enfin, on découvrait le sujet en même temps qu'on faisait nos premiers pas sur ces questions. Et ça change aussi radicalement la manière dont on s'engage, je pense.
J'aimerais mieux comprendre ce que vous dites quand vous expliquez que à l'époque vous aviez le sentiment que c'était ça allait pas être aussi difficile que la réalité l'a montré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous partiez un peu la fleur au fusil faire de l'éducation, par exemple dans les lycées, vous faisiez des programmes et vous pensiez que c'était une affaire de pédagogie et que vous vous êtes confronté progressivement à un terrain qui résistait à ce qui était enseigné, transmis dans vos dialogues interculturels, dans vos rencontres avec les élèves, par exemple.
En fait, on a eu le sentiment, et ça s'est traduit de manière chiffrée par les chiffres donc de l'antisémitisme du SPCJ, on a eu le sentiment qu'il y a eu un effet cliquet, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après 30 septembre 2000, c'est-à-dire début de la seconde intifada, puisque... à partir de là, les chiffres de l'antisémitisme témoignent d'une multiplication en moyenne par 10 du volume d'actes antisémites, et on n'est jamais, depuis 2000, revenu au chiffre des années 90. Donc, ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait le sentiment qu'on allait réussir à faire re-rentrer le génie dans la lampe. On constate bien que c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Et donc, effectivement, il y avait une forme de naïveté, mais spontanéité. Du coup, on a vu beaucoup de gens se remobiliser autour de la cause juive ou de leur identité juive. Beaucoup de gens qui s'en étaient éloignés au cours des années 90 et qui, au début des années 2000, reviennent à cet engagement juif parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a là une ligne de front immédiate. Aujourd'hui, c'est une ligne de front permanente, ça devient du coup un fait avec lequel il faut vivre, enfin, c'est structurant identitairement pour une génération de jeunes juifs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, et Sacha, j'aimerais bien savoir parce que si tu le ressens comme ça ou pas, peut-être pas, peut-être qu'il y a aussi l'idée que vous pouvez réussir à le résoudre.
Sacha Ressent, je pense que vous êtes plus confronté qu'il y a 15 ans à la nécessité d'aller engager des actions et des programmes de lutte contre l'antisémitisme dans les quartiers défavorisés, des dialogues engagés, etc. Est-ce que vous pouvez décrire concrètement comment se sont mis en place ces programmes et en quoi ils consistent? On a envie de se représenter. Quel est le travail militant de vos troupes sur ce terrain-là?
Tout le travail dans les écoles, dans les collèges et les lycées à travers le programme Coexiste, c'est marrant parce qu'il a été pensé par Yonatan il y a 15 ans. Il a été imaginé à ce moment-là où justement on avait l'impression, ce que tu décris Yonatan, on a l'impression qu'on fait face à une succession d'événements qui ne s'arrêtera jamais. Vous avez eu quand même l'intelligence d'imaginer des choses qui se sont transmises, qui ont perduré. Et qui ont évolué aussi nécessairement au gré du contexte. Mais le programme Coexiste d'intervention dans les collèges et les lycées, il a été imaginé il y a 15 ans. Il continue aujourd'hui. C'est des interventions de 2 heures dans des classes de la 4e à la 1ère, pendant lesquelles on essaie d'amener les élèves à réfléchir sur leurs préjugés, à travers un travail de déconstruction, où on leur laisse la possibilité de s'exprimer, de dire parfois des choses difficiles qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer en classe. Et avec des médiateurs qui sont formés, des médiateurs de l'UEJF, de SOS Racisme et de la FAGE, on essaie de déconstruire, de faire ce travail de déconstruction en 2 heures sur une classe d'une trentaine d'élèves. Et puis ce programme-là, il a été aussi déployé dans les prisons, il a été déployé à travers des formations pour les professeurs. Donc aujourd'hui, c'est en moyenne 300 interventions chaque année dans les classes sur tout le territoire, qui permettent de faire ce travail de déconstruction des préjugés. Mais ce travail-là, il est extrêmement important parce que je pense que la force de l'UEJF depuis sa création a toujours été de partir d'un particularisme juif pour aller vers un universel. Et donc ce programme-là, on ne le mène pas seul. On le mène avec des partenaires qui ne sont pas juifs, mais qui partagent avec nous des valeurs. Et de la même manière qu'on partage ces valeurs-là avec nos partenaires dans le cadre de ce programme Coexiste, on partage aussi des valeurs dans nos actions dans les quartiers. Parce qu'on considère que si on laisse des communautés juives qui sont cloisonnées, qui vivent dans la peur ou dans l'inquiétude, parfois de façon tout à fait légitime, et qu'on ne leur permet pas de s'ouvrir et de découvrir le monde extérieur, on les met en danger. Et de la même manière, si on ne permet pas aux habitants des quartiers populaires de découvrir la communauté juive, il y a tout un tas de préjugés, de stéréotypes, d'amalgames qui peuvent être très facilement créés. Quand on sait à quel point il est difficile quand on n'est pas juif de rentrer dans une synagogue, on peut imaginer tout un tas de choses, et le fait d'ouvrir ces lieux-là, d'ouvrir les centres communautaires, d'ouvrir les synagogues, ça fait partie de ce travail-là.
Qu'est-ce que vous faites dans les quartiers concrètement là?
On accueille régulièrement des délégations d'Israéliens qui se rendent dans les quartiers populaires, des délégations de joueurs de foot, notamment une équipe de foot judéo-arabe du village d'Abou Ghosh qui vient chaque année en France disputer des matchs avec des équipes de sport dans les quartiers, ce qui permet à travers la rencontre sportive de découvrir pour des jeunes Français la culture israélienne et puis aussi la complexité de la société israélienne, puisque c'est des Juifs et des Arabes qui vivent ensemble et qui jouent ensemble sur les terrains de foot. Ce qu'on fait aussi, c'est que régulièrement, à l'occasion de la fête de Soukhot, on ouvre les synagogues et on invite les habitants du quartier à se rendre sous la souka pour un événement qui s'appelle Soukhot expliqué à nos potes et qui permet à la fois à la communauté juive d'avoir des liens avec des gens qui vivent dans le quartier et qu'elle ne connaît pas forcément, et en même temps pour les habitants du quartier de découvrir la synagogue, de rencontrer le rabbin, de parler à des fidèles et de se rendre compte que finalement des gens qui portent la kippa sont des gens comme d'autres. Et donc ça permet aussi de ce travail de casser des préjugés sur le monde juif, sur Israël, et c'est extrêmement important, et on en ressent les effets quand on le fait à Villeneuve-la-Garenne, qui est vraiment une ville qui a la réputation d'être difficile, et qu'on croise des fidèles et qui nous disent qu'en 3, 4, 5 ans, le fait pour eux de porter la kippa dans les rues a radicalement changé et qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité du fait de ce travail-là, on se dit que quelque part notre travail porte ses fruits. Alors c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais il faut bien commencer quelque part, et ça passe par ce genre de choses.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la, de l'importance de faire comprendre la laïcité, par exemple, notamment dans votre lettre à Macron, hein, vous, le mot laïcité est revenu plusieurs fois dans vos bouches respectives. Alors justement, une question, on pourrait dire, en interne, au sein des étudiants juifs de France, est-ce qu'il n'y a pas chez certains de vos membres la tentation de mettre en rivalité, par exemple, parfois le calendrier universitaire avec le calendrier des fêtes juives ? Comment vous négociez la question de la laïcité en interne, si on peut dire ?
C'est une question complexe. On l'a travaillé, ce week-end. On était pendant nos universités d'hiver, on fait des ateliers sur ces questions-là, des ateliers d'argumentation et de contre-argumentation. On essaie de préparer les étudiants à ce type de discussion-là qu'ils peuvent avoir avec leurs professeurs, avec les doyens ou avec les présidents d'université. Et c'est une question qui est compliquée parce qu'elle interroge comment est-ce que on peut faire pour à la fois garantir le strict respect de la laïcité, donc la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Et en même temps, la possibilité pour des étudiants juifs de pratiquer leur religion sans que ça remette en cause leurs études. Et donc, il y a une circulaire qui existe depuis 2004 et qui est réactualisée chaque année, qui est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, qui permet aux étudiants juifs de s'absenter pour 3 fêtes religieuses. Il y a une tolérance administrative qui existe. Cette tolérance-là, elle existe aussi pour les étudiants chrétiens, pour les étudiants musulmans, pour les étudiants bouddhistes, pour d'autres fêtes. Et les fêtes juives, c'est Rosh Hashanah, Kippour et Shavuot. Le problème auquel on est confronté, c'est une crispation autour de la laïcité dans les universités, avec parfois des responsables administratifs qui expliquent à des étudiants que s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à soit changer de religion, soit partir en Israël. Au pire, c'est ce qu'on peut entendre. Et au mieux, des professeurs qui expliquent qu'il est impossible de changer quelque chose et que si on accepte quelque chose pour les juifs, alors les musulmans demanderont autre chose. Donc nous, notre volonté et la ligne de l'UEJF a toujours été de dire nous, on demande l'application des textes de loi, pas plus. On ne peut pas imaginer que dans les universités françaises, il n'y ait pas d'examen le samedi, c'est trop compliqué. Par contre, il peut y avoir des accommodements qui peuvent être faits auprès des professeurs, auprès des chargés TD, pour faire en sorte, par exemple, que des étudiants juifs qui ont un examen qui va tomber pendant Shabbat et qui sont pratiquants aient la possibilité de rendre un devoir supplémentaire ou aient la possibilité d'avoir une session d'attrapage, de telle sorte qu'ils ne soient pas sanctionnés en raison de leur absence.
C'est quelque chose qui a évolué, ce rapport
J'étais président de l'UEJF à l'époque où il y a eu la loi sur le voile à l'école, enfin sur les signes religieux à l'école. Et j'ai le sentiment intime que c'est une question qui était au fond très piégée pour les Juifs de France, un débat qui nous a été un peu confisqué. Cette loi n'aurait pas été possible sans l'approbation claire des institutions juives. Si les Juifs de France s'étaient levés en disant la loi sur les signes religieux à l'école est un scandale et c'est un exemple d'oppression des minorités en Europe occidentale, et elle est inacceptable. Au fond, elle n'aurait pas été possible, alors que les Juifs représentent une fraction très marginale de la société française. Donc il y avait une dimension symbolique très forte sur la position des institutions juives à l'époque. Et à l'UEJF, je me rappelle d'ailleurs la commission Stasi à l'époque qui avait été mise en place pour auditionner un certain nombre de personnes. Nous avions été auditionnés à ce moment-là par la commission Stasi et il était naturel pour les Juifs de France de défendre cette loi. Ça interpelle et c'était d'ailleurs très compliqué à expliquer, notamment à nos interlocuteurs anglo-saxons, des Juifs américains qui ne comprennent pas en quoi la laïcité pour les Juifs de France était un bouclier, pour reprendre l'expression, voilà, plutôt que quelque chose que nous vivrions comme une oppression. Donc ça a demandé beaucoup de pédagogie. Effectivement, il y a une partie seulement, parce que je dis ça, une toute petite partie du monde religieux juif qui était plus mal à l'aise avec cette loi.
Mais au sein de l'UEJF, est-ce que vous aviez des discussions musclées en interne sur cette question-là ? Et est-ce que vous en avez d'ailleurs toujours sur cette question-là ?
À l'époque, non. Il n'y a pas eu de clivage sur cette question. Il y avait le sentiment qu'il n'y avait d'abord pas d'autre choix, mais je le dis pas que comme quelque chose de subi, mais aussi comme une forme de cohérence. Les Juifs de France ont toujours été du côté de la laïcité, elle les a protégés, quand elle est elle-même au fond menacée, c'est aux Juifs de la protéger inversement. Et ça ne s'est pas posé, je dirais, comme une question à laquelle d'autres réponses étaient possibles, même si, de manière très marginale, une partie du judaïsme religieux l'avait déjà formulé quand même à l'époque, si on est précis, en 2003-2004.
Bah, nous, on entend d'un côté des étudiants qui nous disent qu'il est inadmissible qu'ils aient des examens qui soient le samedi, et de l'autre, des étudiants qui nous disent mais en fait, faire ce travail-là, finalement, c'est renier sur la laïcité. Et c'est renier la laïcité. Je pense que
ça veut dire qu'ils se sentent en fait clivés d'une certaine manière.
Bien sûr, bien sûr.
C'est intéressant,
c'est des,
ça.
C'est des questionnements internes extrêmement, extrêmement lourds, y compris pour des étudiants qui sont chômeurs Shabbat, mais qui se sentent très français et très attachés à la laïcité. Et je pense que l'une des façons de résoudre ce questionnement-là, c'est la question de la finalité, en fait. C'est que si demain, des étudiants juifs ou des lycéens juifs n'arrivent pas à se projeter en France parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas étudier correctement en France, ça va aboutir à deux choses, le développement de l'enseignement supérieur privé et le développement de vagues d'aliyah ou de départ à l'étranger. Et en fait, cette finalité de considérer que l'université permet un brassage culturel extrêmement important et extrêmement formateur dans la formation des étudiants juifs, nous permet de dépasser ce problème-là, en considérant qu'il faut agir sur ce terrain-là, en ayant conscience de ce qu'est la laïcité, en ayant conscience aussi des préceptes religieux, et en faisant en sorte de résoudre les deux de la façon la plus républicaine possible. Et en ayant en tête cette finalité-là, permettre au plus d'étudiants juifs possible d'accéder à l'enseignement supérieur, en ayant l'assurance que leurs droits seront respectés.
Il y a une question que j'aimerais vous poser, on va malheureusement bientôt terminer l'émission, sur un des programmes qui a été le vôtre, et je voulais savoir où il en était aujourd'hui, qui était lié à la... Ça a été une de vos causes, de la reconnaissance du génocide au Rwanda. Je voulais savoir où vous en étiez sur cette question, pourquoi ça avait été si important pour un syndicat comme l'UEJF de s'engager dans cette cause, à la fois au Rwanda d'ailleurs, et aussi en France, comme si il fallait à la fois lutter pour la mémoire de la Shoah, contre le négationnisme de la Shoah, mais aussi pour la reconnaissance de la mémoire du génocide des Tutsis et contre le négationnisme de ce génocide.
C'était un moment où il y avait dans le débat public du donné qui agitait une concurrence mémoriale, en expliquant qu'on parlait trop de la Shoah et pas assez des autres génocides, ou trop de la Shoah et pas assez de l'esclavage. Et Benjamin Aptan, qui était président de l'UEJF en 2006, avait organisé un premier voyage au Rwanda au cours duquel l'UEJF s'était engagé à commémorer chaque année le génocide des Tutsis. Et en parallèle, l'association des étudiants rescapés du génocide s'était engagée à commémorer la Shoah chaque année au Rwanda. Et donc cette commémoration, on la maintient avec nos partenaires, notamment Ibuka en France, chaque année. Il y a une plaque qui a été déposée au parc de Choisy dans le 13e, il y a un an et demi, qui permet de commémorer ce génocide des Tutsis. Et ce travail-là, il est extrêmement important parce que le combat et les leçons qu'on peut tirer de la Shoah sont des leçons qui sont universelles. Et on part d'un particularisme juif vers l'universel. Et le travail qui a été fait sur le génocide des Tutsis aujourd'hui est largement insuffisant. Il y a beaucoup de travail qui doit être mené encore, notamment pour faire la lumière sur la responsabilité de la France dans le génocide avant, pendant, après. Parce que François Mitterrand avait dit à ce moment-là que s'il y avait un génocide dans cette région du monde, c'était pas un problème. Mmh. Et donc ça interroge aussi notre responsabilité en tant que juifs et en tant que français, 50 ans après la Shoah, comment notre génocide a pu se dérouler en Afrique, et comment la France peut encore avoir une responsabilité à nouveau.
Yannathan Arfi,
quand j'entends Sacha sur cette question, notamment sur la question de l'universel, ça me fait penser à une phrase que l'on prête au rabbin Elie Ben Amoseg, donc rabbin et penseur juif italien du 19e siècle, qui disait « Le judaïsme, c'est l'universalisme comme fin et le particularisme comme moyen ». Et je trouve que assumer au fond cette contradiction interne, cette tension qu'il y a toujours dans l'être juif, en tout cas diasporique, je dirais, ça permet souvent de la sublimer ou de la dépasser. Donc reconnaissons-la, il y a parfois quelque chose de l'ordre de la tension, et cette tension elle est une richesse qui rend souvent singulière la voix juive dans le débat public. Et au fond, il y avait sans doute que les juifs... peut-être du coup les Arméniens qui étaient capables d'entendre ce qu'il fallait entendre du génocide rwandais, enfin Tutsi à ce moment-là, et c'est l'honneur de l'UEJF de l'avoir fait.
Non, mais après, ce qui est aussi très très important, ce que disait Sacha, c'est ce qui se précisait aussi ici, c'est l'idée de lutter contre effectivement cette gangrène de la concurrence des victimes qui a été une espèce de moto pendant quelques années qu'on entendait, qui pourrissait le débat public, en effet.
Ouais. Oui, c'est extrêmement important, et c'est la même chose qu'on entend aujourd'hui, mais sur d'autres sujets. Enfin, quand on nous dit qu'on parle trop de la Shoah et pas assez d'autres génocides, alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un trop-plein autour de la Shoah, on parlerait trop de la Shoah aujourd'hui dans le débat public. Ça signifie que quand on allume la télé, on tombe pas sur les Jeux Olympiques, on tombe sur un documentaire sur la Shoah, sur toutes les chaînes de télévision. Ça signifierait qu'on ne parle pas de l'esclavage non plus. Alors peut-être qu'on parle pas assez de l'esclavage, mais en tout cas c'est pas parce qu'on parlerait trop de la Shoah qu'on parlerait pas assez de l'esclavage. C'est pas un système de vases communicants qui ferait qu'il y a un temps de parole qui soit accordé sur les questions des génocides, et que si on augmente le temps de parole sur la Shoah, alors nécessairement on diminue celui sur l'esclavage. Ça n'a pas de sens. Il faut augmenter celui sur l'esclavage aussi, et tout aussi important que celui sur la Shoah.
Bah, merci beaucoup Sacha Gosselin. Donc vous êtes le président actuel de l'UEGF. Merci Jonathan Arfi, vous êtes actuellement vice-président du CRIF et vous avez été il y a 15 ans président de l'UEGF. On a fait un petit peu avec vous un état des lieux, diagnostic, bilan de quelques-unes des actions que vous menez. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter. Radio-RCJ.info et mémoirevive au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.